Comme on a vu aussi ce matin, on utilise aussi d'autres moyens comme les bavards. Et ce bavard, il est utilisé parce que nous avions une personne qui était vraiment parasitée par ce téléphone de 19h à sa famille. Et il se levait le matin pour dire « Est-ce que papa va téléphoner ? Papa va téléphoner ?» Et on a préparé un bavard où, dans ce bavard, c'est marqué « Papa va téléphoner à 19h ». Il l'a avec lui dans sa chambre et il peut aller au code-barre de son picto tous les fois qu'il veut, sans dépendre de qu'un éducateur puisse lui donner la réponse. Vous dire que déjà, l'année passée, il est venu dans mon bureau avec son bavard et il m'a dit « Plus besoin, Pilar ». Donc aujourd'hui, ben, le téléphone de 19h, c'est plus source d'angoisse pour lui. Et le bavard, il n'a pas voulu, il est dans mon bureau. Donc, les moyens utilisés pour aider les personnes avec autisme à connaître leur emploi du temps consistent à visualiser la succession d'activités de la journée en réalisant un horaire ou un schéma de journée. Il doit être individuel et, vous avez vu, adapté à la personne. Mettre cet outil en place, il va les aider à comprendre ce qu'elle va faire de sa journée, d'anticiper un événement, d'être prévenu et de s'adapter. Nous savons qu'ils n'aiment pas beaucoup les surprises, mais une fois qu'on travaille avec un programme structuré, les surprises, elles sont moins surprises, parce qu'on a moyen de les contrôler avec certains outils. Autres repères temporels qui sont aussi très importants, d'ailleurs, il y a le temps de ta mère ici qui me dit qu'il faut que j'avance. C'est ça. Et pour ces résidents, c'est très important, cette sonnerie, parce que sinon, il resterait à parler toute la journée de ces choses à lui. Et c'est simplement quand dans son programme apparaît que c'est le moment de parler, le temps de parole, on parle avec lui, mais avec un temps de ta mère, pour éviter qu'ils veulent rester des sœurs et des sœurs. Donc, quand la sonnerie sonne, ça veut dire que c'est fini de parler. Clarifier les règles, c'est aussi très important. Pourquoi ? Parce que si on dit à les résidents duquel on parle, mais tu ne dois pas rentrer dans les chambres le soir parce que tu réveilles tes collègues, il ne va pas comprendre. Par contre, si on met un indice visuel, il va, chaque fois qu'il s'élève de son lit et qu'il va et qu'il regarde la porte, il marmonne, finir à entrer dans les chambres. Donc, ça reste et ça lui permet de ne pas essayer d'ouvrir la porte et réveiller ses collègues. Lui, il est très gourmand et il sait que certains parents, ils mettent des friandises dans les autres chambres, il les a tout de suite repérées. Les structurations visuelles des activités qui sont très importantes aussi. D'abord, on les fait en atelier avec les objets que la personne aime. En l'occurrence, cette personne adore les couleurs. Il a des CD dans sa chambre qui sont n'importe, qui sont pas du tout rangés. Donc, l'objectif, c'était de l'apprendre à ranger les CD pour qu'après, dans la vie quotidienne, elle puisse le faire d'une manière autonome. Les consignes visuelles, pour une personne qui n'était pas du tout autonome au niveau de la douche, c'est lui-même qui a dessiné ses pictogrammes, donc c'est la personne que vous avez vue utiliser son programme tout à l'heure, aujourd'hui il est complètement autonome pour toutes ses activités. Et voilà comment ça c'est. Au lavabo, une fois qu'il finit la douche, c'est l'activité ou la tâche qu'il doit faire au lavabo, et ça se présente comme ça dans la salle de bain. Clarifier la tâche quand il y a des tâches ménagères à faire. Ici, c'est le tableau pour faire le ménage d'un autre résident. Donc, il était très fier, deux fois par semaine, de prendre son tableau, de le mettre en face de lui quand il va faire le ménage dans sa chambre. Et l'autre jour, c'était normalement, une des fois qu'il le fait, c'est vendredi, et tout de suite, il vient vous dire, c'est mon tableau. Mais d'autres outils enrichissent les pinces. On n'a pas besoin on ne peut pas être exhaustif aujourd'hui, mais on ne reste pas simplement ancré à tout ce que les programmes TEACH nous offrent. Donc, nous développons des outils qui, la recherche nous dit qu'ils sont adéquats pour la prise en charge de ces personnes. L'évidence sensorielle, j'ai le plaisir de voir ici Madame Christine Jacoud, avec laquelle on travaille beaucoup pour mettre en place tous ces bilans sensoriels qui sont d'une extrême richesse et qui nous donnent beaucoup d'outils pour travailler le quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de tous ces aspects sensoriels, ils peuvent provoquer chez la personne avec autisme des troubles de la conduite et ils influencent vraiment beaucoup leur qualité de vie. Donc, un exemple d'une personne qui est arrivée dans notre institution vraiment avec des troubles majeurs du comportement, des automutilations qui étaient très, très, très graves. Donc aujourd'hui, comment vous les voyez dans la photo, il n'y a rien à voir à ce que, comment il est venu au sein de notre institution. Les PECS, on a parlé aussi tout à l'heure du PECS, à quoi ça sert ? Ça sert à que la personne puisse être autonome, surtout quand il avait soin de nous demander quelque chose. Donc ici, c'est un exemple, c'est un classeur qui a été préparé pour une personne qui a eu une maladie oncologique à laquelle il fallait expliquer les effets secondaires de la chimio et de la radio. C'est vrai que ça a été un travail de longue haleine, mais qui a donné ses fruits. Et la personne, quand les médecins de l'hôpital cantonal ils ont dit qu'ils passaient dans une étape de guérison, ils nous ont demandé de leur amener tous les outils que nous avions mis en place pour son traitement. Et quand le docteur Bodmer, qui les suivait à l'époque, et les docteurs Dietrich et Weber ont vu ça, ils ont dit « mais vous nous avez montré que l'impossible peut être possible avec les outils adéquats ». Donc ici, il demande un esparadrap. Donc pouvoir exprimer ce qui ne va pas, pouvoir demander de l'aide, pouvoir faire des choix, sont des compétences qui sont vraiment fondamentales dont la personne avec autisme aura besoin au quotidien et tout au long de leur vie. En fait, on est en train de leur donner les mêmes outils que nous on a pour pouvoir dire les choses qui ne vont pas. Nous, on a la parole. Eux, la plupart du temps, avec les personnes avec lesquelles je travaille, la parole, elle, c'est une parole qui est ou bien écolalique ou il n'y en a pas. Donc, pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, on trouve que c'est fondamental. C'est pour ça qu'on met en place tous ces outils. On met aussi en place ce qu'on appelle ces scénarios sociaux qui nous servent quand il y a une situation qui peut être problématique. En l'occurrence, c'est un scénario social qui a été mis en place, ça fait un mois, pour un résident que lors du colloque avec ses collègues, il voulait tout de suite parler lui et après s'élever et dire « c'est fini, c'est bon tout court ». Donc pour éviter cela, on a préparé un scénario social et il m'a dit « tu mettras ma photo » parce que lui, il a la parole, donc sa photo va apparaître. Donc attendre mon tour pour parler au colloque, ça s'appelle. Donc, vous voyez comment on les fait. D'aller en Paris chez mes parents, pour lui, c'est très important. Chaque week-end qu'il va chez ses parents, il ne va pas dire « je vais chez mes parents », il va dire « je vais en Paris chez mes parents ». Je me suis dit, c'est pour ça qu'il veut vraiment partir chez ses parents, parce que là-bas, il dort, il ne fait rien. J'ai demandé à ses parents, mais c'est tout à fait le contraire. Il travaille à la ferme, il fait tous les travaux de la ferme, mais pour lui, quand même, aller chez ses parents, c'est aller en paresse. Donc, voilà un petit exemple. Mais il ne faut pas oublier les évaluations qui sont tellement fondamentales et qui sont un pilier de notre travail. Pourquoi ? Pour connaître les compétences de chaque résident, pour établir son profil de fonctionnement et pour la mise en place de son projet éducatif individualisé. Donc, nous utilisons quoi ? Nous utilisons le confort. C'est un outil qu'on a introduit dernièrement, au début de cette année, dans l'institution. C'est un outil qui n'est pas encore traduit en français, mais que bientôt il va l'être. Et c'est un outil très important parce qu'à partir de cet outil, on va savoir si le programme qu'on doit faire pour une personne, si l'agenda qu'on va lui donner, elle est visuelle, elle est par objet, ou, pardon, elle est par objet, elle est par photo ou elle est par pictogramme. Donc c'est une échelle qui se compose de 39 items. Voilà un petit exemple d'un des items. Donc ça, cet item, il va nous illustrer si la personne comprend les images ou pas et quel type d'image il comprend. Et à partir de cet outil, pour cette personne, on a mis en place une personne qui a 63 ans, qui a de longues années de psychiatrie, qui avait des troubles du comportement. Et on a mis en place un petit programme par objet où l'objet lui signifie l'activité qu'il va faire. Donc, à 60 ans, on est capable aussi d'apprendre. Petit rituel. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être derrière la porte en train de vouloir tout ouvrir pour savoir qu'il va aller manger. Donc, il y a aussi les filles, qui est aussi très important parce qu'il va nous parler des différents domaines fonctionnels. Et voilà un petit exemple avec un résident.
Je te montre.
Je m'excuse, c'est des vidéos de travail, donc des fois la qualité n'est pas très bonne. C'est les domaines domestiques, des activités domestiques et les personnes qui ont connu, ces, les personnes dans la salle qui ont connu ces résidents, je pense qu'ils se rendent compte du progrès qu'il a fait depuis 2 ans et demi. Donc on se retire un petit peu pour ne pas être en face de lui parce que sinon il attend toujours nos incitations. Et on voulait savoir si il pouvait faire les choses tout seul.
Le dernier ?
La PEP aussi, nous l'utilisons. Et voilà un petit exemple.
Non. J'avais un.
Ok. Est-ce que tu peux me citer les jours de la semaine ?
Non.
Moi, les jours de la semaine.
Mardi.
Mmh. Il y en a d'autres ?
Le 2.
Les jours de la semaine.
Non. Pas du tout.
Ok. Non. Est-ce que tu peux me dire quel jour de la semaine est le 10 décembre ? Mmh. C'est quel jour de Noël ?
Le 25.
Et puis, il est où le 25 ?
Ici.
Donc cette évaluation nous a permis, ce qui est très important dans toutes ces évaluations, c'est qu'on ne va pas travailler sur les échecs, on va travailler sur les émergences. Donc il faut savoir que les programmes TEACH souvent On a parlé du programme TEACH comme quelque chose de purement comportementaliste, mais le programme TEACH, il se base beaucoup dans toute l'approche Vygotskienne et Piagetienne du développement, donc chose qui pour nous est très importante. Donc ici, vous voyez, à partir de cette évaluation, il avait une émergence par rapport à cet item, et ça nous a permis de mettre en place un travail par rapport au calendrier, parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup aussi et que ça pouvait être pour lui très important, puisque il y a les saisons qui, des fois, pouvaient poser des problèmes. Et maintenant, je repasse la parole à Madame Traoré pour clôturer cette présentation. Merci.
Alors, juste la conclusion. Vous avez vu dans le programme la conférencière, Madame Pilar Blanco, chef de secteur socio-éducatif d'Épicentre Autisme. Mais qu'est-ce que c'est qu'Épicentre Autisme ? Alors, Épicentre Autisme, c'est effectivement, un secteur qu'on a voulu développer au sein des EPI, un secteur de recherche et de développement. Entendons-nous bien, de la recherche pédagogique, de la recherche terrain, de la recherche en lien avec les travaux des collaborateurs et des familles pour les personnes avec autisme. Et ce centre est né de cette manière car il a pu être financé pendant 14 mois par une fondation privée, la Fondation Handicap Mental et Société, qui est présidée par des parents qui ont effectivement une fille qui se trouve dans un des appartements de Tonnet, l'appartement Fadiez. Et c'était une manière de reconnaissance par rapport au travail qui avait été effectué pour ces personnes. Alors, ça a duré donc 14 mois et on a décidé de garder ce centre dénommé ainsi Épicentre Autisme, toujours pour faire perdurer puis pour valoriser le travail qui a été mis en place depuis 97-99. Alors, quels sont ses objectifs ? Eh bien, c'est évidemment promouvoir et animer ce centre de compétences spécialisées afin d'améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme. Et puis, continuellement, comme ça a été fait pendant 14 mois et dont Pilar a parlé, faire appel à des experts en vue de mettre en œuvre, avec le personnel des EPI, des outils de formation et d'information et de sensibilisation aux TED. Maintenant, effectivement, on a environ 30 à 40 collaborateurs, éducateurs, assistants socio-éducatifs qui sont formés à ces approches, et tout le monde est à même de mener des bilans, et plusieurs cadres pédagogiques sont aussi extrêmement bien formés et peuvent aider et encadrer les équipes et surtout aussi aider les équipes qui accueillent des personnes autistes, je vous ai dit, dans les résidences qui sont hétérogènes. Puis on ne veut pas garder, on veut partager ce savoir et cette expérience et très souvent, effectivement, on peut participer à des conférences, à des congrès, à des colloques et on collabore beaucoup avec les hautes écoles de travail social de Genève, de Fribourg, le CEFOPS, le Centre de formation des assistants socio-éducatifs et la pédagogie curative à Fribourg. Et on aime aussi beaucoup collaborer avec les autres institutions romandes et partager les savoirs, les expériences et de part et d'autre. On pense que c'est la seule manière de pouvoir améliorer la prise en charge des personnes avec autisme. Alors, merci de votre attention et surtout remercier les collaborateurs dans cette salle qui sont impliqués, Madame Blanco.